Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'était une série d'été consacrée par Noël Simselot aux héros du roman noir français. De Vidocq à Benjamin Malocène, en passant par Judex, Maigret, Vautrin, Rocambole, Monsieur Lecoq, Chéri Bibi, Fantomas, Arsène Lupin et quelques autres. Inévitablement, Nestor Burma y avait sa place. Celle d'un détective privé, souvent perdant, mais qui s'en sort bien. Dont les aventures jouent sur le trompe-l'œil, qui n'a pas de morale, mais a une éthique que les belles femmes attirent et qui ne se montre jamais grossier avec le beau sexe. Dans chaque quartier, explorer les bas-fonds et côtoyer la misère humaine, c'est la destinée de Nestor Burma. Première diffusion sur France Culture, le 14 août 1991.
Héros du roman noir français, 13e émission, Nestor Burma.
C'est quoi ce contrat?
Un arrangement pour quelqu'un comme Monique, sans scrupules. Ah, voilà, voici ma voiture.
Attrape!
Extrait de Micmac Moshu Boulmich de Léo Mallet. Je ne la reconnus pas tout de suite à cause de l'absence de lunettes, mais je compris qu'il ne pouvait s'agir que de Yolande. Aussi morte qu'on peut l'être, elle gisait sur le divan dans la minuscule chambre sans fenêtre. Au niveau de son visage cireux et figé, une sorte d'autel était dressé, sur lequel brûlaient deux petits cierges, et dans une cassolette, des bâtonnets odoriférants. C'était de là que provenait cette odeur d'encens ou assimilée. Et l'autre odeur aussi, en plus de celle des cierges, l'odeur d'un cadavre qui se décompose lentement. Tout autour de la couche funèbre étaient disposées des images et des objets de piété, et d'autres plus barbares, vagues, gris-gris ou amulettes, mêlant en un culte unique et sacrilège la religion chrétienne et des survivances d'idolâtrie. Yolande était morte. Restait à savoir de quoi. Et chez son amant, désespéré d'avoir perdu la jeune blanche qui avait répondu à son amour, l'homme primitif, remontant du fond des âges, avait fait craquer le vernis de la civilisation. Ou tout simplement était-il devenu toc-bombe, comme ça peut arriver à tout un chacun. Il n'avait pas voulu se séparer du corps. Je vis et compris tout cela en quelques secondes, car tout se passa très vite. Et notamment là-bas, à la porte palière. J'entendis trois claquements secs et étouffés, terriblement caractéristiques. Puis un quatrième, plus fort. Celui-là, c'était une porte, mais pas les trois premiers. On ne faisait pas le détail aujourd'hui. Tout venait d'un coup, apporté par une grande vague. J'abandonnai la chapelle ardente et bondis vers l'entrée. La porte avait été refermée et quelqu'un dévalait l'escalier à toute pompe. Toussaint la nouvelle, debout dans les trois vestibules, soufflant comme un bœuf, mais n'exhalant aucune plainte, se comprimait le ventre de ses mains posées en éventail. Vision d'épouvantable cauchemar, le colosse, frappé à mort, fit mécaniquement un pas en avant, puis un deuxième, semblable à la statue du commandeur et aussi inexorable. La porte de communication était restée ouverte et la lumière de cet après-midi quasi printanier, calme, doux et paisible, m'éclairait en plein. Il m'aperçut. si tant est qu'il fût fichu de distinguer quoi que ce soit du point où il était. Loin. Si loin, déjà. Il détacha ses mains musculeuses de son ventre, et il me sembla entendre le sang bouillonner, jaillir à grands flots de ses entrailles et dégouliner le long de ses jambes. Il tendit vers moi ses bras à la redoutable allonge, ses bras de singe. Pétrifié, je ne réalisais le danger que trop tard. Je sentis avec dégoût sa main poisseuse de sang se balader sur mon visage, chercher le cou. Dans un dernier sursaut de ce qu'il croyait être de la lucidité, de la connerie, oui. Il me supposait de mèche avec celui qui venait de l'assassiner. Je fis un effort pour me déplacer, échapper à l'affreuse étreinte. J'esquivai, mais pas suffisamment. Sa main dévia, retomba sur mon épaule. Ses doigts d'acier la grippèrent et se crispèrent, bien décidés à ne pas lâcher prise. C'est à ce moment-là qu'il dut mourir. Debout. Comme Emily Brontë. Seulement, il pesait bougrement plus lourd que la petite Anglaise. Ah, ok, le secoua, il s'abattit comme une masse m'entraînant dans sa chute et je me retrouvai sous lui. La mort saisit le vif. Je crois que c'est un principe de droit. Ô Yolande. Et puisque je suis sur le chapitre des citations, avez-vous déjà giflé un mort? Demandait le poète Louis Aragon pour ne pas le nommer. Vous êtes-vous déjà colleté avec un cadavre?
Il revient à lui. Le Clovis baisse les lumières.
Qu'est-ce qu'on va foutre de détective privé?
Attends. Vous allez mieux, monsieur Burmain?
Vasé comme un assommé, monsieur Venturi.
Ben pourquoi prononcez-vous ce nom tout le temps, Venturi?
Mais
je suis à Paris sous un autre nom. Parfaitement incognito. Et Clovis n'aime pas qu'on cite Venturi n'importe où et n'importe comment. Dans ces cas-là, il se fâche. Tandis c'est qu'il a la matraque un peu lourde.
Tiens. Bois ça.
C'est de l'alcool ou de la drogue?
Dis pas n'importe quoi.
La drogue. Vous connaissez bien.
Patron, ce mec est incorrigible.
Burma, je suis plus dans la cam. Qu'est-ce que vous me voulez?
Rien du tout. Votre Clovis jouait les gros durs. Il embêtait une jeune fille. Alors, histoire de le calmer, j'ai balancé votre nom au hasard.
Ouais, ce qui signifie que vous connaissiez ma présence dans le secteur.
C'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant.
Sans importance. Je ne fais rien de répréhensible.
Coup et enlèvement d'un détective privé, c'est légal?
Préventif. J'ai horreur qu'on m'asticote.
Vous aurez quand même les flics aux fesses d'ici peu.
Comptez porter plainte?
Je vois pas comment vous me séquestrez.
Pensez pas que nous allons vous tuer.
Bon, Rabastas est bien passé à la casserole.
Rabastas?
Un journaliste qui a eu l'occiput fracturé. Les coups violents sur la cafetière sont la spécialité de votre Clovis. Il prend les crânes pour le vase de Soissons.
Pourquoi ai-je fait bousiller ce type?
Il devait savoir des trucs intéressants sur la cam.
Je m'occupe plus de drogue.
Les poulets n'en sont pas convaincus.
Ils ont tort. Je suis rangé. Peinard.
Et l'opium avec lequel Lucie Ponceau s'est suicidé?
Moi, j'ai lu ça dans le journal. Une camée qui s'est finie en augmentant la dose, là, c'est classique.
Non. Elle n'était pas une toxicomane. Elle ignorait comment obtenir de la drogue. Quelqu'un lui a procuré une livre d'opium, pour être sûr qu'elle ne se loupe pas. Personne ne peut avoir une telle quantité sans être en cheville avec un trafiquant.
Ouais, bel gagnant. Ouais.
Le commissaire Farou pense comme moi. Il va vous traquer, Venturi.
Je suis pas dans ce micmac.
Bon, Dans ce cas, je peux m'en aller ?
Ah, bien entendu. J'espère ne pas devoir le regretter. Mais je vous rappelle que pour moi, hein, la drogue, c'est fini, hein. D'ailleurs, c'est un truc qui marche mal. Les anciens trafiquants se planquent et je n'ai plus aucun contact avec eux. Bon, Clovis va vous accompagner, mais comme je ne veux pas que vous connaissiez cette cachette, il va vous endormir.
Prends ça, farceur.
Didier Denax, aujourd'hui nous abordons un personnage de détective privé français, dû à la plume de Léo Mallet. Et c'est bien que nous abordions ce personnage avec vous, Didier Denax, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les auteurs de romans noirs, ceux qui écrivent de nos jours, sont peut-être beaucoup plus marqués par le personnage de Nestor Burma que par ce que l'on a appelé le néopolar.
Dans l'écriture de Léo Mallet, il y a une reconstitution du Paris des années 30, 40 et après 50, qui est pratiquement aussi forte que celle de Simenon. C'est-à-dire il y a une science pour planter un décor qui est vraiment formidable. Il y a un personnage, alors là c'est pratiquement le seul qui ait gagné ce pari-là, Léo Mallet, c'est de faire un personnage de détective privé en France. C'est-à-dire que le détective privé a toujours été un personnage peu crédible dans le roman policier français. Là, il arrive à mettre un détective qui, avec sa secrétaire, avec son bureau et tout, qui arrive à complètement prendre pas dans le décor. Donc il y a ça chez Léo Mallet qui est fortement intéressant. Et il y a aussi l'irruption d'une certaine manière de la politique. Dans les premiers bouquins, ça va bien. Puis après, il y a des dérives chez Léo Mallet que chacun peut constater en le lisant. Mais dès le départ, il y a une volonté de parler des anarchistes, de parler du peuple de Paris, de parler de ce qui était les HLM de l'époque, la cité Jeanne d'Arc, par exemple. Et là, on a une vision d'un Paris populaire extrêmement précise et qui est quelque chose qui est assez rare dans l'écriture de romans noirs.
Léo Mallet.
Je me suis dit, mais puisqu'on me dit, parce que je faisais lire autour de moi les bouquins quand j'étais publié, toujours je distribuais assez aisément à mes amis, j'ai dit, mais puisque on trouve ce que tu fais pas trop mal, est-ce que tu ne pourrais pas en écrire un sous ton nom ? Et c'est là que j'ai écrit un bouquin qui s'appelait 120 rue de la Gare, où j'ai mis en scène un personnage de détective privé dont on m'a dit qu'il n'existait pas l'équivalent en France. Mais là, moi, je demande encore à voir, car les gens qui me disent ça n'ont pas travaillé, n'ont pas été le nègre d'un maître chanteur analphabète comme je l'ai été, moi, dans l'orbe duquel gravitaient des personnages très troublants, et notamment des détectives privés. Bon, alors pour en revenir à ce détective privé, je l'ai appelé Nestor Burma. Je ne sais pourquoi, on m'a posé sans voix la question. Je n'en sais rien.
Et vous avez une idée d'explication là, qui est dans les cahiers du silence.
Oui, mais elle est un peu longue à fournir. Mais c'est-à-dire, c'est ça, oui. Le premier chapitre de Fu Manchu s'ouvre la nuit chez le docteur Petri. C'est la nuit, il y a le brouillard. Enfin, c'est le Londres tel qu'on le voit comme ça dans les romans policiers. On sonne à la porte, le docteur Petri va ouvrir. Et il voit devant lui un personnage engoncé dans un pardessus, la pipe à la bouche, et il s'exclame « Nélan Smith de Burma ». Car cet homme venait de Birmanie, et le traducteur n'avait pas jugé utile d'écrire de Birmanie. Il s'était imaginé que Burma, c'était une ville ou je ne sais quoi. C'était sonore, oui. Nestor, ça faisait également sonore, et le tout faisait, nous revenons encore à quelque chose, le tout faisait baraque foraine. Baraque foraine et ses peintures idiotes qui était tellement prisé par Arthur Rimbaud.
Monsieur Burma Nestor pour les dames se promène au milieu des drames. Son métier c'est de les éclaircir. Monsieur Nestor c'est un détective à qui des tas de trucs arrivent. Il s'en fout, ça lui fait plaisir.
Pendant que vous bourrez et allumez votre célèbre pipe à tête de taureau, je vais essayer de vous définir brièvement, mon cher Nestor Burma. Vous êtes arrivé en 1942 dans la littérature policière et votre dernière enquête a eu lieu en 1971, ce qui fait 30 ans de présence.
Par une présence permanente, il faut bien le dire. Il y a eu des creux et des absences dont je me serais bien passé. Bon, maintenant que les polices sont faites, dites-moi dans quel coup tordu vous allez m'entraîner.
Aucun coup tordu, c'est une simple interview.
On dit ça et toutes sortes de choses arrivent.
Vous êtes aussi râleur que votre créateur, Léo Mallet.
Bon, c'est pas la seule ressemblance entre lui et moi. Nous avons des goûts communs, des déceptions communes. On les ressasse ensemble depuis 50 ans et notre inaction actuelle n'arrange rien. Elle activerait plutôt la nostalgie et l'amorosité.
Allons, vous êtes Nestor Burma, le détective de choc, l'homme qui met KO le mystère, Dynamite Burma, le premier détective français. Une belle invention.
Détrompez-vous, je ne suis pas une invention. Même s'il existe peu de types dans mon genre, il en existe. Ouais, j'en ai connu. Moi, je suis de la génération d'avant-guerre, et j'ai connu des gens de toutes sortes. Avant de devenir détective, j'en ai bavé, après aussi d'ailleurs. Et j'en bave encore. Moi, je suis à l'enseigne de la vache enragée. Oh, je l'étais déjà à l'époque du foyer végétalien de la rue de Tolbiac, en 1927. Le club des insurgés, l'anarchie.
Vous êtes resté anarchiste ?
Oh, je suis plutôt anarchisant. Un peu aventureux, un peu aventurier. Un homme libre, indépendant, toujours fauché. J'ai jamais eu envie de gagner ma vie en pointant à l'usine, ni en me déshonorant d'une manière ou d'une autre. Flic privé, vous savez, c'est un peu spécial. Surtout que je suis pas amateur des préfectures. Je suis pas partisan des services de la tour pointue. Flic privé, c'est un boulot qui ne me déplaît pas, même si je n'arrête pas de prendre des coups sur le crâne. Heureusement, j'ai l'occiput solide.
On connaît 34 enquêtes suivies par vous.
Toutes des affaires où je collectionne les misères. J'ai jamais eu de chance. Quand les truands ne m'emmerdent pas, ce sont les poulets qui s'en chargent. Pas de quoi triompher. Moi, j'ai pas la fibre triomphatrice.
Vous tombez toujours sur des affaires de meurtre.
Dès que j'ai un client, il y a au moins un cadavre à venir. Parfois c'est le sien. Parfois il y en a un, d'autres fois une bonne quinzaine. Ma route croise toujours des cadavres. Je les attire comme la viande attire les mouches. Je concurrence le croque-mort.
Vous fondez l'agence Fiat Lux avec l'argent de l'assassin d'un comédien que vous deviez protéger. Hein, si mes notes sont justes. Et la guerre éclate.
Oui, mais là, il y a eu des cadavres dont je ne suis pas du tout responsable. Enfin bref, j'étais prisonnier de guerre au Stalag XB. J'en suis revenu en 1941, juste pour m'occuper de l'affaire du 120 rue de la Gare. Vif succès littéraire qui m'a valu la gloire. D'ailleurs, René Darry m'a incarné au cinéma.
Oui, bon, enfin, Burma, vous travaillez seul, mais avec des aides quand même.
Il y a Hélène Châtelain, ma secrétaire. Je lui dois d'ailleurs encore du fric. Elle est toujours avec moi. Oh, c'est un rapport de frères et sœurs vaguement incestueux. Il y a aussi deux extras, Zavater et Reboul. Reboul, c'est le manchot. Et puis Marc Covette, un journaliste que j'ai connu avant la guerre et qui boit. Au point d'être surnommé le journaliste éponge. Ça fait pas baiser. Je suis souvent seul à plonger dans le brouillard.
Enfin, vos rapports avec la police sont pas si mauvais. Le commissaire Farou vous aime bien.
Il préférerait que je fasse un autre boulot. Dès que je débarque dans une affaire, je fournis la morgue. Il doit régler des détails administratifs et, secrètement, il s'inquiète pour ma santé. Je pourrais me reposer sur lui. Je ne peux pas, je suis un privé. Même si mes clients sont de drôles de zigotos, il faut que je garde le secret professionnel, c'est la règle. L'éthique. J'ai pas de morale, mais j'ai de l'éthique. Mes origines prolétariennes et paysannes m'ont donné le sens du respect de la parole donnée.
Enfin, bien que détective, vous ne semblez pas beaucoup aimer fouiller dans la vie des gens. Hein.
Parce que j'aime pas qu'on fouille dans la mienne. C'est pourquoi cet entretien me court sur le haricot. C'est vrai, je suis à la retraite, j'ai pas écrit mes mémoires. Je ne suis bavard que pour les choses du corps et de l'esprit. Vous savez, j'exècre les ragots. Je déteste les colporteurs de potins, les calomniateurs. Pour moi, les maîtres chanteurs sont comme les revendeurs de drogue. Ce sont des porteurs de mort. Je souffre à chaque enquête. J'aimerais ne pas apprendre ce que j'apprends. La vie intime devrait rester... intime.
Vous menez vos enquêtes au hasard des rencontres. Vous découvrez peu à peu des choses qui s'accumulent, mais si le commissaire Maigret se laisse envahir par ce qui l'entoure, vous restez plutôt distant.
Sauf avec les dames. Une belle femme attire Burma. Elle attire aussi des ennuis. J'aime trop les femmes, j'encaisse et je ne soigne mes peines de cœur qu'avec des sarcasmes. Bon, des sarcasmes vis-à-vis de moi, hein. Je suis pas du genre grossier avec le beau sexe. Ah non. Non, je respecte trop les dames. Les respectueuses comme les autres. Pour les jeunes générations non averties des choses sexuelles et vénales de la vie, je précise que les respectueuses sont les péripatéticiennes. Et pour ceux qui manquent de vocabulaire, disons les prostituées.
Non mais je disais en comparant à Maigret que l'enquête ne se déroule pas en vous, mais devant vous.
Mais c'est pour ça que Maigret ne prend jamais un coup sur la cafetière, alors que moi ça m'arrive plusieurs fois par roman.
Et vous ne vous prenez pas pour un justicier?
Je ne me bagarre pas pour la société, mais pour moi. Aucune envie d'approvisionner le bourreau. Et puis, qui est franchement bon et qui est franchement mauvais. Alors, je ne juge pas. J'assiste. Et j'agis parce que j'ai donné ma parole à un client.
Vous n'êtes pas détective privé par vocation ou par conviction?
J'ai fait tous les métiers. Trimardeur, faux témoin pour des vrais mariages, assistant de personnages importants, compagnon de miséreux. Je suis resté honnête. Enfin, relativement honnête. J'aime pas foncièrement les hommes. Leur vie m'importe assez peu, mais je rechigne à utiliser mon revolver. Dynamite Burma, c'est de la publicité pour avoir des clients. Tuer quelqu'un, même en légitime défense, c'est pas ma nature. Je suis un râleur, pas un colérique irresponsable. Le monde est tel qu'il est. Oh, il y a longtemps, j'ai pensé pouvoir aider à changer la vie et la société. Autrefois, en tant que flic privé, je gagne mon bœuf, c'est tout. Et je ne gagne pas assez. Je préférerais gagner de quoi bouffer du bœuf bourguignon et boire un grand médoc plutôt que du 12 degrés.
Hein. Je pense que pour la France, vous êtes le premier anti-héros du roman policier.
Un héros, c'est un imbécile qui a eu la chance de ne pas recevoir de balles. Mon boulot n'a rien d'héroïque. Pour avoir un peu d'héroïsme, il faudrait que je croie en une idéologie quelconque. Je sais pas, moi, en une grande idée révolutionnaire.
Oui, mais enfin, vous avez pourtant fréquenté les amis de Trotsky.
Je me serais déshonoré en fréquentant ceux de Staline ou d'Hitler. Hein. Des copains surréalistes m'ont appris à faire indifférence. J'ai même été en Espagne pendant la guerre, pour combattre les fascistes de Franco, comme l'a fait Benjamin Perret. Je ne renie rien, il y avait urgence.
Mais justement, dans vos enquêtes, vous croisez souvent le surréalisme.
Je suis très sensible à la beauté convulsive, en art comme dans le réel. Certains ont même écrit que j'avais fait le pont entre le surréalisme et le roman noir. Avant moi, il y avait eu Rocambole. L'autre et à moi admirait Rocambole. Et Fantomas, c'est connu. Mais dans mes aventures, le surréalisme est directement désigné. Pourtant, Léo Mallet a quitté les surréalistes parce qu'il jugeait qu'il ne pouvait pas rester dans le groupe et écrire des romans policiers. Seulement, il n'a pas osé m'empêcher de continuer à fréquenter le surréalisme.
Et puis, vous êtes aussi un piéton de Paris.
Les arrondissements de Paris étaient passionnants. Avant que les promoteurs ne les foutent en l'air.
Oui, alors à ce propos, vous êtes le héros des Nouveaux Mystères de Paris, mais votre comportement est très éloigné de celui du personnage de Gensu. Hein.
On peut dire que j'ai hanté 15 arrondissements pendant les années 50. J'ai servi de révélateur, comme un film documentaire. J'ai rencontré des bons comédiens, des mauvais cabots, des apprentis chanteurs, des maîtres chanteurs, des mannequins. Super, des petits voleurs, des voleurs de tableaux de maître, des marchands de tissus, des marchands d'amour, des prêteurs sur gage, des industriels, des écrivains raffinés, des noceurs grossiers, des internés dans les hôpitaux psychiatriques, des obsédés en liberté, des impresarios douteux, des créateurs doutants, des producteurs un peu honnêtes, des starlettes libidineuses, des dames du monde... Des contes turfistes, des chiffonniers pittoresques, des gitanes émouvantes, des voyantes exotiques, des gens de couleur, blancs comme neige, des russes blanches vendeuses de bas noirs, des cuisiniers chinois, des forains rougeaux, des héritières au sang bleu, des bohèmes paumés et des terroristes de l'Irgoum. Toutes les races, toutes les couleurs, toutes les classes sociales. Mais toutes les différences cessent dès qu'on se transforme en cadavre. Moi, je n'ai rien d'un prince qui veut aider les pauvres. Je fréquente tout le monde. Dans chaque quartier, j'explore les bas-fonds, des coins tranquilles et des palaces. Partout, il y a la misère humaine. La mienne, pour commencer.
Et vous racontez vos aventures en mêlant toujours le cynisme et l'humour.
Et bien, un jour, je me suis dit, Lupin ne puis être, Maigret ne daigne, Burma suit. Alors, c'est du cynisme ou de l'humour ?
Ça, c'est du plus vrai que le vrai. C'est du trompe-l'œil.
Mes aventures jouent sur le trompe-l'œil. Le réel est le trompe-l'œil. Au départ, Léo Mallet avait envie de me rendre antipathique. Sa haine du flic, privé ou pas. Et puis, il s'est attardé sur nos points communs, nos goûts communs. Depuis son apparition, le roman noir a joué du mélodrame, du délire horrifique, du social bondieusard, du fantastique réaliste. Avec moi, on ne sait pas très bien. Je suis authentique. Bien des lecteurs savent se retrouver dans mon bon sens. et je suis sympathique parce que je suis un perdant qui s'en tire quand même bien. Et puisqu'il reste en vie. En fait, je ne triche jamais, c'est imparable, vraisemblable, populaire. Même si les surréalistes et l'imparfait du subjonctif sont au rendez-vous. Parce que le style compte. Nestor Burma, c'est du vécu. Mal vécu, mais sacrément bien écrit.
Sans concession au genre ?
Burma respecte le cahier des charges. Pas les pressions des représentants du conseil d'administration. Cynique, sarcastique, romantique, désabusé, mais lucide.
Enfin, pour moi, Nestor Burma, vous avez annoncé les personnages de la série noire française, mais vous avez aussi annoncé ce dîner au polar.
Oh, je suis devenu un mythe au moment où Léo Mallet a cessé de raconter mes enquêtes. Ça, c'est vrai que 120 rue de la Gare a fait du bruit. J'étais lancé, mais ça n'a pas duré. Au point que Mallet a publié ma seconde aventure 2 ans plus tard. Puis j'ai eu ma traversée du désert entre 1949 et 1954. Jusqu'à son idée de me faire promener dans les arrondissements de Paris. Et là aussi, je disparais, en 1958. D'ailleurs, 5 arrondissements manquent à la série. Parce que Paris... Parce que Paris m'écœurait. Paris écœurait aussi Léo Mallet, d'ailleurs. La ville perdait son visage, plus de traces visibles du passé. Oh. L'horreur. L'horreur. Pendant 9 ans, plus de nouveaux Burmains. Et en 1967, j'en reviens jusqu'en 1971. Et c'est vers 1973 que ma mythologie commence. Les anciens de mai 68 se retrouvent en moi. Pourquoi ? Mon côté anarchiste, anticonformiste. Le fait que je ne marche pas droit comme il faut dans le corridor de la société. D'année en année, c'est devenu incroyable. On publie mes aventures, on les republie, on les illustre, on les filme. Je sais que Nestor Burma figure dans les anthologies du roman policier avec Sherlock Holmes et Philippe Marlowe. Mais c'est pas pour ça que Léo Mallet m'a fait revenir pour parler des années Giscard et des années Mitterrand. Non. C'est sur la touche. Au musée. Ouais, un musée doré, mais un musée quand même.
C'était Héros du roman noir français. 20 émissions de Noël Simsolo, réalisées par Dominique Costa. Aujourd'hui, Nestor Burma. Avec la voix de Francis Lemaire, de Léo Mallet et de Didier Denynx. Texte de Léo Mallet. Extrait du feuilleton France Culture, Corrida aux Champs-Élysées. Archive INA. Équipe technique, Jean-Louis Boissonnade, Yves Builly, Jean Fèvre et Agnès Warnier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 août 1991. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.